Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. De New York à Saint-Nazaire, Emmanuel Macron prend large aujourd'hui sur la côte atlantique pour visiter le premier parc éolien français offshore. L'éolienne, les pales de la Discorde, on en parle juste après le journal avec Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Vladimir Poutine plus esselé que jamais après son discours très guerrier d'hier et l'appel à la mobilisation partielle. La Chine prend ses distances. À 12h40, nous serons avec Bernard Lecomte, journaliste et historien spécialiste de la Russie. La géopolitique qui rattrape aussi l'équipe de France de basket. Elle perd son meneur, Thomas Hurtel, qui a choisi d'aller jouer à Saint-Pétersbourg. Et puis les Bleus du foot, eux, pour rassurer à 2 mois du Mondial. Ils affrontent l'Autriche ce soir en Ligue des Nations.
Sans oublier, évidemment, RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui, on part pour la Sarthe où le département offre des montres connectées pour pousser les ados à bouger. À 12h20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Que faire de ces économies? Quels sont les meilleurs placements? Martial You vous dira tout. Et puis juste avant 13h, LVT Midi et les débuts au théâtre de Laura Smet. La question du jour sur RTL.fr. Faut-il implanter plus d'éoliennes en France, Pascal?
Autant de sujets, je crois pas. Autant de sujets.
C'est bizarre, j'avais un doute.
Autant de sujets que vous pourrez évidemment débattre après le journal. J'ajoute ce sujet, les hommes amateurs de viande sont-ils davantage sexistes? Vous m'interrogez sur les éoliennes et je vous interroge sur la viande. Qu'en pensez-vous?
Je suis pas très viande, moi.
Bon, on en parlera en tout cas avec les auditeurs.
La météo avec vous, Claire Delorme. On fait un point complet à la fin du journal, mais déjà une tendance pour l'après-midi, c'est beau.
Oui, très ensoleillé. Bon, encore un petit peu chargé au niveau de la Méditerranée et des températures stationnaires. 24 degrés pour la moitié nord, en tout cas jusqu'à 24 degrés, et jusqu'à 26-27 degrés pour la moitié sud.
Merci, Claire.
RTL Midi.
Il a quitté les Nations Unies et les tensions géopolitiques pour les côtes françaises et un sujet là aussi sensible. Emmanuel Macron est au large de Saint-Nazaire actuellement, à 12 de kilomètres des côtes, pour visiter le plus grand parc éolien offshore. William Galibert, on vous retrouve en mer, sur le bateau du président, qui mise beaucoup sur l'éolien au large, mais sans embarquer tout le monde derrière lui.
Oui, disons que la croisière ne s'amuse pas toujours quand il s'agit de ces éoliennes. Elles sont au large, c'est vrai, mais elles font 180 mètres de haut et il y en a 80. Là, elles sont juste devant nous, juste sous les yeux du président. Et je vous confirme que ce sont de sacrés engins. Alors, de Saint-Nazaire au Croisic, en passant par Pornichet, certains habitants, certains élus trouvent qu'elles défigurent l'horizon. Mais Emmanuel Macron a tranché, des parcs comme celui-ci, il en veut 50 en France dans les 30 prochaines années. Il les juge beaucoup plus acceptables au large que dans nos campagnes. Par contre, ce n'est pas ces parcs éoliens qui vont nous aider à passer l'hiver. Il a fallu 10 ans pour mettre en service celui de Saint-Nazaire. Réduire les délais, réduire les recours juridiques, c'est aussi un des objectifs de la future loi qui sera présentée lundi en Conseil des ministres.
Et avec beaucoup d'ambiance, William Galibert du service politique de RTL. On reviendra évidemment sur ce sujet de l'éolien, notamment offshore après ce journal avec Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. La sécheresse observée cette année devrait coûter entre 1,6 milliard et 2,4 milliards d'euros selon la Fédération des assureurs. Ce serait potentiellement donc l'année la plus coûteuse pour ce type d'événement.
L'affaire Amraoui à présent, au lendemain du placement sous contrôle judiciaire d'Aminata Diallo. Son avocat prenait la parole ce matin pour clamer une nouvelle fois l'innocence de sa cliente.
L'ex-joueuse du PSG est soupçonnée d'avoir commandité l'agression violente de son ancienne coéquipière et rivale Keira Amraoui. Des accusations qui, d'après maître Mourad Batik, ne tiennent pas.
Évidemment, les agresseurs désignent collectivement et individuellement Aminata Diallo. Enfin, la belle affaire, ça fait 10 mois que toutes les suspicions que l'œil de Sauron est sur Aminata Diallo, vous voyez bien que c'est très facile pour ce commanditaire de réunir les 4 agresseurs et de dire le jour où vous vous faites attraper, on est bien d'accord que c'est Aminata Diallo. Et donc, je crois qu'il faut être prudent. Et le jour où cet intermédiaire, où ce commanditaire sera identifié, eh bien, je voudrais dire à tous ceux qui ont traîné dans la boue, qui ont lynché, qui ont sali, qui ont malmené Aminata Diallo, il faudrait plutôt que ce jour-là, ils puissent se regarder dans un miroir.
Propos recueillis par Maxime Lévy pour RTL. Le parquet lui fait appel de ce placement sous contrôle judiciaire et redemande donc le placement en détention provisoire d'Aminata Diallo.
RTL Midi.
Notre devoir, c'est de tenir notre ligne face au chantage de Vladimir Poutine. La déclaration est signée Emmanuel Macron.
Oui, le chef de l'État réagissait chez nos confrères de BFM au discours très martial de Vladimir Poutine hier matin et l'annonce donc d'une mobilisation partielle en Russie. Quelques heures après ce discours, Kiev annonçait de son côté l'échange de plus de 200 prisonniers militaires et parmi eux les héros d'Azovstal, ceux qui ont défendu Mariupol jusqu'au dernier jour, Émilie Beaujard.
Oui, des symboles de la résistance face aux Russes. 188 soldats qui ont défendu la Syrie d'Azovstal ont été libérés hier soir. Un échange qui a pu avoir lieu sous l'égide de la Turquie et de l'Arabie Saoudite. Plusieurs commandants du régiment Azov sont arrivés donc dans la nuit en Turquie et ils vont y rester jusqu'à la fin de la guerre, selon les termes de l'accord. À leur arrivée, ils ont tenu à remercier le président ukrainien.
Monsieur le Président, mes chers Ukrainiens, je vous suis infiniment reconnaissant de nous avoir amenés ici. Merci beaucoup. Je suis submergé par l'émotion. Il va me falloir du temps pour reprendre mes esprits, mais ensuite, je dirai tout ce qui doit être dit. En attendant, encore merci à tous ceux qui ont œuvré pour notre libération.
En échange, la Russie, elle, a récupéré 55 prisonniers, dont Viktor Medvedchuk, un ancien député ukrainien ouvertement pro-russe et qui avait essayé de fuir au début de la guerre en se déguisant en soldat ukrainien. Très proche du président russe, il dit que Vladimir Poutine est le parrain de sa plus jeune fille. Accusé de haute trahison en Ukraine, Viktor Medvedchuk serait donc arrivé ce matin en Russie.
Émilie Beaujard du service étranger de RTL, on reviendra longuement sur la situation en Russie, sur l'isolement de Vladimir Poutine aussi à 12h40, on sera avec Bernard Lecomte, journaliste, historien, spécialiste de la Russie.
Une information qui va peut-être vous surprendre, car cette situation internationale rejaillit sur l'équipe de France de basket.
Oui, les Bleus perdent leur meneur, Thomas Hurtel, joueur capital hein, tout au long de l'Euro ces derniers jours. Il a décidé de s'engager avec le club du Zénith Saint-Pétersbourg. Or, la Fédé interdit la sélection de joueurs évoluant en Russie, Isabelle Langer.
Et cette signature interroge, car Hurtel a, comme tous les joueurs de l'équipe de France, signé avant l'Euro l'attestation sur l'honneur stipulant qu'il n'était pas engagé et n'envisageait pas de signer avec un club russe ou bélarusse. Écoutez d'ailleurs ce qu'il nous disait le 2 août dernier.
Non, mes agents sont en contact avec des clubs russes, si vous voulez en savoir, et des autres en Espagne. On est en train de voir ce que je vais faire l'année prochaine.
C'est lourd à porter quand même cette ambiance, Thomas.
Je vois pas de quoi vous parlez.
A-t-il menti à cette époque ? Y a-t-il eu petit arrangement entre amis pour que le meneur des Bleus dispute quand même l'Euro ? Dans un communiqué ce matin, la Fédération française de basket affirme que ce n'est pas le cas, qu'elle savait que Thomas Hurtel avait des contacts, mais qu'elle ignorait qu'un contrat avait été signé ou était en cours de signature avec un club russe. Une chose est sûre, à 33 ans, Thomas Hurtel a visiblement préféré un contrat juteux financièrement au maillot bleu. Il peut d'ores et déjà dire adieu à la Coupe du Monde l'an prochain et peut-être même au JO à Paris en 2024.
Isabelle Langer du service des sports d'RTL. Les Bleus du foot, eux, affrontent l'Autriche ce soir en Ligue des Nations. Didier Deschamps, confronté à une cascade de blessures, a dû remanier son groupe pour ce dernier rassemblement avant le Mondial. France-Autriche, ce sera à vivre entre 20h40 et 23h dans RTL Foot et pour les images sur M6. La météo, comme promis, on vous retrouve Claire Delorme, vous nous promettez un bel après-midi.
Exactement, du soleil, beaucoup de soleil sur les trois quarts du pays, même sur l'ensemble du pays, à l'exception de la Méditerranée où ce sera encore un petit peu chargé en nuages à la mi-journée, mais en tout cas au fil des heures, ça va progressivement se disperser pour de très belles plages d'éclaircies. Encore quelques averses résiduelles, principalement vers la montagne Corse, vers les Alpes du Sud et vers l'Est des Pyrénées, mais c'est vraiment de manière résiduelle partout ailleurs. Du soleil, mais déjà les prémices d'une dégradation arrivant donc par la Bretagne et par la Normandie, mais seulement en toute fin de journée. Pour les températures, quand même assez clémente. Dans l'après-midi, nous aurons 21 degrés à Paris, 20 degrés à Lille, 21 degrés à Strasbourg, tout comme à Nevers, 23 degrés à Clermont-Ferrand, 24 degrés à Perpignan et tout de même jusqu'à 27 degrés à Bordeaux, encore à Toulouse.
C'est bien, 27
Claire.
Degrés.
C'est pas mal, 27.
Bien sûr,
c'est
et demain, évidemment, c'est l'automne. 23 septembre, premier jour d'automne demain.
RTL Midi, un jour chez vous.
Il y a du soleil sur la France et RTL Midi, c'est chaque jour chez vous, l'info plus près de chez vous, précisément dans les territoires.
Avec aujourd'hui un voyage en Sarthe où l'on retrouve Christian Panvert. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
La Sarthe, où le conseil départemental a lancé il y a plusieurs mois un projet pour lutter contre la sédentarité des ados de 11 à 17 ans, c'est le programme Sport Santé. Et parmi les actions concrètes, Christian, il y a cette distribution de montres connectées dans deux collèges pour inciter les élèves à bouger. Élèves que vous êtes allés rencontrer à La Ferté-Bernard.
Oui, et à la sortie du collège, j'ai rencontré, avec sa maman, un élève de 6e qui a reçu la fameuse montre en juin dernier.
On nous a donné une montre à tous les 6e. Elle servait à avoir sa localisation, le rythme cardiaque, le nombre de pas, les calories.
Elle te sert à quoi cette montre aujourd'hui ?
Et je sais pas trop parce qu'on n'en a pas reparlé depuis.
Elle est où cette montre ?
Dans un tiroir.
C'est vrai que c'est quand même étonnant de donner des montres à des jeunes gens pour qu'ils soient obligés de marcher, de faire quelques pas ou de faire du sport. La montre est dans le tiroir, dit-il, et au collège, on n'en parle plus, mais elle fait toujours polémique.
Absolument. Le président de la FCP Sarthe a recueilli les doléances des parents d'élèves. Alors, globalement, ils n'ont rien contre le projet, mais s'interrogent quand même sur l'utilité d'une montre connectée. Je vous propose d'écouter François Pérignon de Troyes.
C'est des élèves qui sont en 6e. On n'a pas trop obligatoirement envie d'acheter un téléphone portable pour son enfant. Tout le monde n'a pas non plus une connexion Internet. Les données physiologiques de mon enfant vont être envoyées quelque part. Et qu'est-ce qu'on va en faire ? À quoi elles vont servir ? C'est ce petit truc qui a inquiété aussi des parents qui nous ont écrit.
Même défiance de la FSU, Éric de Mougin en est le secrétaire départemental.
À vouloir surveiller pour protéger, ce sont les conditions d'une société liberticide aussi qu'on risque de créer. C'est cette imprudence-là qu'on trouve dommageable du conseil départemental.
Les profs d'éducation physique et sportive pourront utiliser les données de la montre. C'est le cas d'Antonin Bézanier et il n'est pas vraiment convaincu.
On a beaucoup d'installations vétustes. Pourquoi pas mettre ces finances-là à profit pour pouvoir donner plus d'activités sportives à nos enfants plutôt qu'aller chercher des données que, par ailleurs, on connaît déjà depuis longtemps.
J'imagine que le département de la Sarthe ne reste pas sourd, Christian, à toutes ces remarques.
Absolument. J'ai rencontré Anthony Trifot, il est vice-président du conseil départemental, il a en charge notamment la commission jeunesse. Alors l'élu se veut rassurant.
Les données de la montre ne seront pas récupérées. Les indicateurs de la montre s'affichent sur l'écran, mais il n'y a pas besoin d'un téléphone portable pour pouvoir lire les informations.
Alors, le coût de la montre est de 7 euros, 150 ont été distribués. L'objectif est d'en offrir 8000 à chaque rentrée au 6e, et ce, pendant 4 ans. Alors, le département rappelle qu'on est dans une phase expérimentale, mais que le projet ira bien à son terme.
Christian, c'est quand même un drôle de monde que nous fabriquons peut-être, d'être obligé de donner des montres, je le répète, pour faire du sport. Merci en tout cas, Christian. Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. On va parler des éoliennes. Les éoliennes qui, a priori, dans le département de Loire-Atlantique, vont fabriquer 20% par an de l'énergie. Donc ça, c'est quand même un argument qui s'entend pour les éoliennes. À tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
L'éolien en mer sera développé pour viser de l'ordre de 40 gigawatts en service en 2050, soit une cinquantaine de parcs éoliens en mer.
C'était en février dernier les annonces d'Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui est actuellement au large de Saint-Nazaire, où 80 éoliennes ont été installées en mer depuis le printemps dernier. C'est le plus gros parc offshore français. Le chef de l'État doit préciser les grands axes du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui sera présenté lundi en Conseil des ministres. Et pour en parler, nous sommes avec Alexandre Roche, délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Ce parc éolien dont on parle alimentera 700 000 foyers. C'est 15% de la Loire-Atlantique du département, donc. Et en 2050, l'ensemble des parcs alimentera 15 à 20% de la consommation électrique du pays. C'est donc une avancée importante pour l'énergie renouvelable ?
Oui, tout à fait. C'est le début d'une série de parcs qui vont s'installer au large de nos côtes. Et c'est une contribution absolument essentielle. D'abord pour les hivers qui arrivent, puisque c'est des énergies qui vont pouvoir s'installer dans les prochaines années.
Oui, c'est pas pour cet hiver, hein, on l'a dit dans
Alors,
le journal.
Celui-ci va être mis en service à la fin de l'année, en l'occurrence il va contribuer dès cet hiver, mais derrière il y a d'autres parcs qui vont arriver dans les prochaines années, dès l'année prochaine d'ailleurs. Il y a
15 000
parcs.
Éoliennes je crois.
15 000 éoliennes ?
C'est le chiffre qui est annoncé régulièrement, 15 000 éoliennes ces prochaines années.
Alors non, il y a 5 700 éoliennes en Europe, 5 700 éoliennes offshore en Europe aujourd'hui. On en a 80 désormais en France, donc on est très en retard par rapport au Royaume-Uni, par rapport à la Belgique, par rapport aux Pays-Bas, l'Allemagne. Donc on est en train de rattraper notre retard. C'est vrai que c'est un processus qui a mis du temps. Il a fallu 10 ans pour faire sortir ce parc, mais il y a eu des modifications et des simplifications administratives et juridiques en 2018 qui font que les prochains parcs pourront sortir plus vite.
Alors, il y a beaucoup d'adversaires des éoliennes. On leur reproche d'être une horreur pour les yeux et les oreilles. Elles abîment le paysage, elles attaquent la biodiversité. Elles ne fonctionnent que 25% du temps. Il y a une faible productivité. Elles sont soutenues à coups de subventions européennes et de lobbies industriels. Et l'immense majorité des ruraux n'en veulent pas, puisque leurs maisons perdent leur valeur. Ça, c'est globalement les critiques que j'entends. Et les pales ne sont pas recyclables. C'est aussi ce que j'entends.
Alors, vous allez... Point par point, parce qu'on va peut-être avoir du mal.
Alors, beaucoup de choses ont été dites et sans doute plusieurs d'entre elles sont fausses. D'abord, les maisons perdent de la valeur, pas du tout. L'ADEME a sorti une étude il y a quelques mois qui montre au contraire que la valeur immobilière des biens ne baisse pas. Ça, c'est le premier point. Je vous invite à regarder l'étude. Elle est extrêmement solide. Deuxième point, les pales ne sont pas recyclables. Aujourd'hui, les pales ne sont pas recyclables et elles sont valorisées énergétiquement dans les cimenteries. Demain, et là aussi je vous invite à regarder les contrats qui ont été passés dans tous les futurs parcs, nous aurons des pales 100% recyclables qui sont désormais sur le marché. On n'est pas dans la démonstration ou le concept. Vous avez évoqué d'autres points.
Faible productivité, ça ne fonctionne que 25% du temps.
Non, alors les éoliennes au large, ça fonctionne 45% du temps à puissance maximum. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne 45% du temps dans l'année. Ça fonctionne 90% à 95% du temps dans l'année. Et ça produit à pleine charge pendant 45%. Mais aujourd'hui, on ne va pas faire un mix électrique français juste avec de l'éolien en mer. Ça va venir s'imbriquer dans une équation beaucoup plus large. Et on a un système électrique qui peut tout à fait absorber ces capacités.
Mais quand je dis qu'elles abîment le paysage, c'est très laid quand même.
Alors,
j'étais cet été à La Boule. Je suis un peu de là-bas et souvent là-bas, c'est une horreur.
Moi, j'étais hier soir à l'École nationale du paysage de Versailles. Ils sortent un nouveau livre sur l'évolution du paysage à travers l'évolution énergétique du pays. C'est extrêmement intéressant. Le paysage a toujours évolué avec l'évolution du mix énergétique. On a des terrils, on a plein de choses qui ont évolué. Aujourd'hui, on est en effet dans une nouvelle modification du paysage. Je rappelle qu'on importe 60% de notre consommation d'énergie aujourd'hui. Si on veut, dans le contexte actuel, face à Vladimir Poutine, être capable d'être plus indépendant, il faudra accepter une forme de relocalisation de ces moyens de production. Et en effet, il y a un impact paysager, mais qui, je pense, doit être contrebalancé parce que ça rapporte à la souveraineté énergétique de notre pays.
Et qui existe aussi avec les autres formes de production d'électricité. Le côté esthétique d'une centrale nucléaire peut se discuter aussi.
Alors, moi, j'ai entendu, c'est le maire de La Baule qui disait cela, on paye les erreurs qu'on a faites. Par exemple, en Loire-Atlantique, il y a une centrale nucléaire qui devait voir le jour dans les années 70, la centrale nucléaire de Cordemay. Comme on ne l'a pas construite, on est obligé aujourd'hui de faire des éoliennes. C'est aussi les erreurs du passé.
Alors, je pense que les erreurs du passé, c'est de ne pas avoir développé assez vite les énergies renouvelables. Si nous avions atteint les objectifs renouvelables que la France s'était fixée pour 2020, nous aurions aujourd'hui, en plus, au moment où nous nous parlons, 6 fois Fessenheim dans le système électrique en plus. Donc, une erreur du passé, ça a été de ne pas accélérer assez sur les énergies renouvelables. Et aujourd'hui, nous aurons besoin de substituer ces énergies fossiles avec plus d'électricité. Donc, nous aurons besoin de produire plus d'électricité. Les seules capacités électriques décarbonées qui peuvent se déployer rapidement, c'est-à-dire d'ici 15 ans, ce sont les énergies renouvelables.
Et qui participent donc, ces éoliennes, on l'a compris, à un mix énergétique. On ne fera pas du tout éolien pour assurer l'indépendance énergétique française.
Pas du tout éolien en mer, en tout cas.
Merci beaucoup, Alexandre Roche. Je rappelle que vous êtes délégué général du syndicat des énergies renouvelables. Je ne suis pas sûr que vous ayez convaincu Pascal. Mais...
Non, mais c'est bien d'entendre les arguments de chaque camp et puis après de trouver la bonne position. En tout cas, dans un instant, RTL Midi, votre vie. On en parle tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Votre vie, oui, c'est un peu également la nôtre, car l'info, c'est ce qui fait votre et donc notre quotidien à tous. Et aujourd'hui,
le blé, ça paye pas. Ça a eu payé.
Fernand Reynaud, ça a eu payé. L'épargne aussi, mais aujourd'hui...
Il est mort il y a 50 ans. Je crois qu'il est mort en 73.
Oui, j'ai un petit côté suranné, Pascal.
C'est formidable, Fernand Reynaud.
Merci. Vous vous posez peut-être la question si vous avez réussi ces derniers mois à mettre quelques centaines, voire quelques milliers d'euros de côté. Comment les faire fructifier au mieux? Eh bien, Martial You, c'est vous qui vous êtes penché sur ce sujet. Bonjour.
Bonjour.
Bon, j'ai de la chance. J'ai réussi à mettre 3-4 000 euros de côté aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en fais?
Alors, c'est pas mal déjà parce qu'il y a eu une enquête Ipsos il y a quelques semaines qui disait que les Français, ces derniers mois, avaient réussi à mettre à peu près 2 848 euros. Donc, vous êtes dedans. C'est bien.
Merci.
La vraie question, c'est épargne disponible ou pas? En ce moment, C'est le livret A qui emporte la mise, évidemment, parce que son taux de rémunération est passé de 0,5% à 2% en un an. Donc, évidemment, facialement, c'est une énorme progression. Maintenant, j'ai regardé si vous avez vos 4 000 euros. Ça vous rapportait 20 euros d'intérêt en 2021. Ça vous en rapportera 80 euros cette année. Mais c'est ce que les Français veulent parce que c'est facile. C'est en gros, c'est votre porte-monnaie, quoi. Vous mettez votre argent de ce côté-là, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, c'est pas fiscalisé, mais ça ne rapporte pas, à proprement parler, de l'argent. C'est quand même 4,5 milliards qui ont été collectés sur le livret A au mois d'août. On n'a pas vu ça depuis 2009. C'est le produit de crise par excellence. 2009, c'était déjà la crise des subprimes. Et là, de nouveau, on met sur le livret A. Donc, vous avez un plafond, livret A, livret de développement durable. Tout ça marche pareil. Après, vous avez l'assurance vie. Là, l'assurance vie aussi, ça marche très bien auprès des Français. Mais là, il faut être patient. Soyons clairs, hein, le rendement des fonds euros, il s'est stabilisé en 2021.
Et il sera... c'est bloqué l'assurance vie.
L'assurance vie, c'est bloqué sur un délai, bien entendu.
C'est 7 ans.
Ça dépend. Vous pouvez avoir 7 ans, vous pouvez aller au-delà, hein, vous pouvez renouveler, vous avez différents types de contrats. Mais globalement, on va dire que par rapport à ce qu'on connaissait en termes de rendement il y a quelques années, en 2017, vous étiez à 4% de rendement par an, donc ça pouvait avoir un intérêt. Là, on est plutôt à 1,3% d'intérêt. Donc, vous voyez, on est largement retombé.
Si vous avez 4 000 euros, c'est pareil. Il ne va pas rester grand-chose.
Voilà, c'est ça. C'est pour... Mais là, en revanche, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vos 4 000, vous les mettez, vous ne pouvez plus y toucher. C'est la différence avec un livret, évidemment.
Il y a le PEL également.
Oui, alors le PEL.
Le plan épargne-logement.
C'est ça. Plan épargne-logement, ça fait un peu ancienne France, ça. Hein, ça fait un peu années 70, on parlait de Fernand Reynaud. Vous avez un plafond à 61 200 euros. Il est moins intéressant aujourd'hui, le PEL. D'abord parce que ça va nous amener à réfléchir au marché de l'immobilier. Le marché de l'immobilier est moins intéressant aujourd'hui qu'il ne l'était hier. Vous avez un taux de rémunération qui est à 0,8%. Il est bloqué pendant les premières années. En gros, votre PEL, c'est de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus acheter un bien immobilier si vous n'avez pas d'apport. Donc, ça va vous permettre d'avoir cet apport-là, mais ce n'est pas ça qui va vous rapporter de l'argent et vous mettre à l'abri.
Bon, donc reste la bourse, c'est à risque. Mais parce que là, si vous avez 2 ou 3 000 euros, vous les mettez de côté pour ne pas y toucher, bien sûr, mais ça... pas pour avoir de l'argent, des intérêts, parce qu'ils sont quand même très faibles, c'est ce que vous dites.
Alors, c'est exactement ça. Il y a un truc, et j'avoue, la Banque de France, le gouvernement, personne ne comprend pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas le PEL, je reprends les lettres, on fait le Scrabble. C'est le LEP, le livret d'épargne populaire. Alors, il est réservé sous conditions de revenus, c'est-à-dire que si vous avez deux enfants et que vous gagnez 31 000 euros par an, donc c'est des revenus assez bas, vous avez un taux d'intérêt à 4,6%. Il y a la moitié de ceux qui y ont droit en France qui ne le prennent pas, le LEP, qui ne savent pas que ça existe. Ça peut être une solution. Après, vous avez évidemment, oui, la bourse. Potentiellement, c'est toujours le même principe, l'épargne. D'abord, il faut savoir si on en a besoin tout de suite. Et il faut avoir, quand on va à la bourse, l'idée qu'on peut le perdre. Et ça, c'est pas toujours évident.
Il y a le poker aussi.
Oui, évidemment. C'est ça, ou le casino, oui, bien sûr.
3 000 euros, ou le casino, parce que les rendements, là, sont très, très faibles. Merci, Martial Youf. Il faut économiser, quoi qu'il arrive. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Merci, c'était RTL Midi, votre ville. L'info revient dans une seconde avec le journal de 12h30.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, et merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12-30,
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
On veut des profs. Des parents d'élèves menacent de saisir la justice. Ils dénoncent les absences trop fréquentes et un manque de chance pour leurs enfants. La Chine prend ses distances avec Moscou et au lendemain de son discours très martial, Vladimir Poutine semble plus esselé que jamais. On y revient en longueur après le journal. Ce sera avec Bernard Lecomte, historien spécialiste de la Russie. Des bébés coincés dans une crèche qui prend feu et un drame évité à Lyon. Une grande incompréhension aussi, vous l'entendrez. Les Bleus pour rassurer, ce soir à 2 mois du Mondial, privé de nombreux cadres, Didier Deschamps va devoir composer face à l'Autriche. Et puis votre rendez-vous culture, LVT Midi à 12h50 aujourd'hui. Les premiers pas au théâtre de Laura Smet, Monique Younes a pu assister aux répétitions pour RTL.
Tous ces sujets, bien sûr. La question du jour, faut-il implanter plus d'éoliennes en France ? Elle sera posée aux auditeurs. Mais tous ces sujets, bien sûr, on pourra les développer à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole, appelez-nous au 3210 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
La météo à la fin du journal, mais déjà un indice, Claire Delorme, jaune.
Exactement, très ensoleillé sur l'ensemble du pays. Bon, la Méditerranée, ça restera encore un petit peu chargé, mais les éclaircies seront là avec des températures allant de 18 à 24 degrés pour la moitié nord et de 22 jusqu'à 26 degrés dans le sud.
Merci Claire.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Ils veulent des profs pour leurs enfants et ils sont prêts à se tourner vers la justice pour obtenir gain de cause. Des parents d'élèves réunis en collectif alertent le ministère de l'Éducation nationale. 127 dossiers ont été déposés ce matin, Zoé Pallier. Des parents qui dénoncent les absences beaucoup trop fréquentes des profs et la perte de chance de leurs enfants.
Oui, Frédéric, par exemple, son fils est scolarisé dans un collège du 18e arrondissement de Paris. Il a fait le calcul, 200 heures de cours perdues l'an dernier faute de remplaçants. C'est 20% du total des heures prévues en classe de 5e.
Mon grand donc, n'a quasiment pas eu de cours d'anglais l'année dernière. Donc, je sais d'expérience que quand on ne fait pas de langue vivante pendant un an, après c'est difficile de raccrocher les wagons. Il y a des jours où il y a une heure, deux heures de cours uniquement. Quand on rentre du travail le soir, on se rend compte qu'il a passé la journée à regarder la télé. C'est ce que je constate chez mon enfant.
Alors Frédéric dit qu'il a tenté d'alerter le rectorat l'an dernier sans succès. D'où l'intérêt d'une demande collective d'indemnisation, explique maître Joyce Pitcher, avocate du collectif.
Les demandes qui sont formulées sont vraiment symboliques puisqu'on demande 10 euros par heure d'absence ou 50 euros par journée d'absence. L'objectif est évidemment de faire bouger les choses, que l'État se rende compte qu'il faut vraiment qu'il y ait un prof dans chaque classe et un prof formé dans chaque classe.
Les rectorats ont 2 mois pour formuler une réponse, sans quoi le collectif saisira le tribunal administratif de chaque académie un peu partout en France pour tenter de faire condamner l'État.
Zoé Pallier en direct du ministère de l'Éducation nationale pour RTL.
Leur crèche prenait feu et ses enfants étaient coincés à l'intérieur. Histoire invraisemblable, mardi à Lyon.
Oui, un début d'incendie s'est déclaré dans un établissement People and Baby du 4e arrondissement de la ville. Et une partie des enfants est restée coincée à l'intérieur, ça jusqu'à l'arrivée des pompiers, Frédéric Veil. Frédéric Perruche.
Oui, cet après-midi-là, je vous en prie. Oui, cet après-midi-là, 10 enfants sont présents dans la petite crèche bilingue sur les hauteurs de Lyon quand des torchons laissés imprudemment sur une cuisinière électrique commencent à prendre feu. À ce moment-là, ils sont 4 enfants dans la cuisine et dans les locaux alors que leurs 6 petits camarades sont dans l'espace extérieur avec les 2 seuls auxiliaires de puériculture présentes. L'incendie n'est pas très violent, mais des fumées importantes se dégagent et les 2 employés se retrouvent coincés dans la petite cour car la porte laissée entrouverte s'est refermée et il est impossible de l'ouvrir de l'extérieur, ce qui est absolument anormal. Elle tente alors de casser une vitre sans succès, téléphone aux pompiers qui arrivent heureusement très vite accompagnés par la police prévenue par une passante. Aucun enfant n'a été blessé ni même intoxiqué par les fumées, mais une enquête est ouverte pour négligence car ce serait un des bambins qui aurait tourné les boutons de la cuisinière et qu'ils étaient sans surveillance, version que conteste la direction de People and Baby. Mais la structure sera fermée 3 mois, le temps de vérifier que l'établissement était en conformité avec les règles de sécurité.
Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
RTL Midi.
Une longue minute d'applaudissements à l'issue du discours de Volodymyr Zelensky hier aux Nations Unies. Une minute qui en dit long sur l'isolement de la Russie.
Moscou, oui, de plus en plus abandonné par ses traditionnels alliés qui prennent leur distance avec le conflit en Ukraine. Et pas des moindres, hein, Bénédicte Tassard, au premier rang, la Chine.
Eh oui, et Poutine l'a bien compris depuis quelque temps. Regardez Samarkand, en Ouzbékistan, là où se tenait la semaine dernière un sommet Russie, Chine, Inde et autres pays de l'Asie centrale. Poutine et Xi Jinping ont bien affiché une amitié de façade, mais les Chinois ont également profité du rendez-vous pour dire qu'il y avait des limites à l'entente cordiale. D'ailleurs, le chef du Kremlin leur a répondu publiquement « Nous comprenons vos interrogations et vos préoccupations. Le dialogue n'est donc pas serein. » C'est vrai que Pékin refuse de condamner la Russie. C'est vrai aussi qu'elle profite de l'occasion pour développer des accords commerciaux avec Moscou. Mais il ne faut pas que ça dure. Pareil pour l'Inde. New Delhi achète du pétrole russe à prix cassé. Mais toujours à Samarkand, le président Modi lance « On n'est plus ». Le Premier ministre Modi lance « On n'est plus à l'époque de ce genre de guerre ». Dans un autre style, la Corée du Nord affirme maintenant ne jamais avoir fourni d'armes à la Russie contrairement aux propos de Poutine. L'Afrique, elle, se veut toujours neutre. À la tribune de l'ONU, le président sénégalais Macky Sall rappelait simplement que le continent a assez subi le fardeau de l'histoire.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL, merci.
Ne signez pas, c'est le conseil d'Emmanuel Macron aux entreprises qui voient le montant de leur contrat d'électricité s'envoler à la faveur de la crise énergétique.
Des entreprises qui ne sont pas concernées, hein, on le rappelle, par le bouclier tarifaire qui protège les particuliers. Le chef de l'État demande donc aux professionnels de temporiser. Anaïs Bouisson, mais ça veut dire quoi ?
Emmanuel Macron dit en fait, attendez un peu, ne signez pas aujourd'hui si vous devez renégocier votre contrat d'énergie. Ça vaut pour les entreprises, ça vaut pour les mairies, les départements. Attendez un peu car les pays d'Europe tentent de faire collectivement baisser les prix. Le marché européen de l'électricité date des années 90, il n'est plus adapté, il fait gonfler les prix artificiellement et il faut tout réformer à l'échelle des 27. Pour l'urgence, les professionnels réclament une sorte de bouclier pour les entreprises, pour bloquer en quelque sorte les tarifs. Encore faut-il que tout le monde se mette d'accord. Une réunion cruciale est prévue vendredi prochain avec les ministres de l'énergie européens. Emmanuel Macron ajoute aussi, je cite, pas de panique. Sauf que dans la vraie vie, quand un chef d'entreprise se retrouve le couteau sous la gorge avec un risque de coupure d'énergie, ne pas paniquer est beaucoup moins évident. Écoutez François Asselin, le représentant des petites et moyennes entreprises de la CPME.
Bien sûr qu'on ne va pas signer comme ça les yeux fermés. On n'a pas vocation à se pendre hein, quand on est entrepreneur. En revanche, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui seraient très intéressés de savoir quel sera leur tarif au 1er janvier 2023. Parce que si évidemment la seule proposition c'est de vous pendre, autant mettre la clé sous la porte tout de suite. C'est comme si vous ne signez pas à titre personnel votre contrat d'électricité, eh bien, on ne vous fournit plus d'énergie.
Encore ce matin, la CPME cite l'exemple d'une entreprise dont le contrat annuel est censé passer de 77 000 euros à 300 000 euros. Les représentants estiment que 150 000 entreprises sont concernées, en péril donc, rien que pour renouveler leur contrat si les gouvernements ne parviennent pas à stopper les prix fous.
Anaïs Bouisson pour RTL.
50 euros de reste à vivre après avoir payé les factures. Voilà ce qui reste chaque mois à 2 étudiants sur 3, selon l'association Linky.
Association qui organise notamment des distributions alimentaires et qui voit de nombreux étudiants parmi les bénéficiaires. La vie est trop chère, les bourses ne suffisent pas, alors certains travaillent, multiplient les petits jobs.
Ce qui n'est pas nouveau d'ailleurs.
Ce qui est pas
les étudiants ont toujours parfois travaillé il y a 20 ans et il y a 30 ans déjà.
Non mais là, 2 sur 3 avec 50 euros de reste à vivre, ça montre que la période est quand même particulièrement compliquée, comme vous avez pu le constater avec Chloé à Bordeaux, Denis Grangeau.
Oui, pour Chloé, étudiante en master des sciences de la vigne et du vin, pas besoin de calculatrice pour calculer ses postes de dépenses.
490 euros de loyer, 45 euros d'électricité puisque ça a augmenté cette année, 30 euros de forfait téléphone, les courses on compte 150 euros, plus le chat 50 euros, 200 euros. Ouais, on est sur un total de 800 voire 900 euros de dépenses.
Chloé reçoit 400 euros environ de bourse chaque mois et pour joindre les deux bouts, elle n'a pas d'autre solution que de travailler. Restauration rapide, garde d'enfants, vendange et depuis une semaine, elle travaille dans un laboratoire œnologique.
C'est fatigant, donc il faut boire plus de café. Généralement, c'est des contrats qui vont de 12 à 24 heures, c'est le max que j'ai fait par semaine, plus les cours, donc ils prennent à peu près 30 heures. Donc des fois, ça fait des semaines, oui, à 60 heures. On n'est pas tous égaux, mais après, ça fait une certaine force aussi puisque ça crée de l'expérience. J'ai appris à m'adapter à plein de situations, donc le travail me permet de émanciper. Voilà, il faut insister. Après, pour trouver du travail, ça se fait pas tout seul non plus. Hein. Faut y aller, faut aller toquer chez les gens, faut voir s'ils ont besoin. Et puis, on trouve tout le temps. Juste, il faut être un petit peu courageux, je dirais, ou téméraire.
Chloé a un objectif, terminer son master avant de réaliser son rêve, partir en Amérique du Sud, même si elle sait encore une fois que pour se payer son billet d'avion, il lui faudra travailler dur.
Denis Grangeau à Bordeaux pour RTL.
Et chacun a donné ses souvenirs de jeunesse pendant qu'on écoutait Denis Grangeau. Christian Olivier, qui vient de rentrer dans ce studio, disait qu'il était poissonnier quand il était étudiant. Donc il pourra vous confirmer.
Ah ben je confirme absolument.
Il n'aura pas une retraite de poissonnier en revanche, Christian. Je vous parle retraite puisque la présidente de l'Assemblée nationale refuse un passage en force. Oui, on fait les transitions qu'on peut. Hein. Passage en force sur la réforme des retraites. Yael Braun-Pivet, présidente Renaissance, donc de la majorité présidentielle. Ça va être dur là. Vous m'aidez pas, Pascal. Yael Braun-Pivet, présidente Renaissance, donc de la majorité présidentielle, assure ce matin qu'elle n'est pas favorable à une réforme par amendement. Elle demande au gouvernement donc de prendre le temps de la concertation. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui, se défend, mis en cause pour son tweet de soutien à Adrien Quatennens.
Quatennens, le député insoumis qui a reconnu des violences conjugales. Jean-Luc Mélenchon assume ses propos. « Je pèse mes mots tout le temps », a-t-il déclaré.
Un groupe très remanié pour un match à double enjeu ce soir pour les Bleus, ce qui nous vaut la présence de l'ami Christian.
Exactement, puisque l'équipe de France affronte l'Autriche en Ligue des Nations. Infopa condamnerait les Bleus à une relégation assez peu glorieuse dans le groupe B de cette compétition. Mais l'autre enjeu de ce match, Christian, c'est bien sûr de préparer le Mondial dans 2 mois et d'offrir une image plus reluisante de cette équipe de France.
Oui, alors comme pour les footballeurs qui disent prendre les matchs les uns après les autres, je vous propose de lister les enjeux les uns après les autres. Si les Bleus perdent ce soir, le match de dimanche contre le Danemark ne vaudra pas un clou. Ils tomberont dans le groupe B de la Ligue des Nations, remporté l'an passé, inconcevable pour les champions du monde, avec des répercussions marketing notamment, des répercussions sur les positions de tête de série pour les éliminatoires Euro 2024 et Mondial 2026 également. Alors vous me direz c'est loin, mais voilà qu'arrive dans 2 mois la Coupe du Monde, sauce Didier Deschamps, avec un titre à défendre et une sérieuse migraine à ne pas écarter, sauf pour le sélectionneur, bien dans son rôle.
Quoi qu'il se passe, l'objectif est toujours le même, c'est la recherche de la performance, peu importe ce qui se passe, les 23 joueurs qui sont là, ce groupe-là, je les ai choisis, j'ai confiance en eux.
Mais quand même, avec une dizaine de titulaires blessés, 0 victoire lors des 4 derniers matchs, une atmosphère pesante et des vents contraires, ce sera pas simple, même si Didier Deschamps, dont la belle famille est originaire de Concarneau, sera tiré des bords.
Christian Olivier, chef du service des sports d'RTL. Vous aimez ça?
On est resté dans la métaphore de marine.
Maritime.
Maritime, exactement.
France-Autriche, donc, à vivre entre 20h40 et 23h dans RTL Foot ce soir. Pour les images, ce sera sur M6. Merci encore, Christian. Et à votre tour, Claire, pour un après-midi, vous nous l'avez dit, très ensoleillé.
Ensoleillé sur la quasi-totalité du pays, à l'exception pour une fois de la Méditerranée, où le soleil, enfin en tout cas le ciel restera un petit peu chargé. Bon, ça va quand même se disperser avec de belles éclaircies, et puis ça commence à se voiler un petit peu vers la Normandie et vers la Bretagne, mais juste en fin de soirée, avec des températures clémentes jusqu'à 24 degrés pour la moitié nord et 26-28 degrés dans le sud.
Merci Claire.
Dans un instant, Bernard Lecomte, il est journaliste et historien spécialiste de la Russie et il va avec nous parler de la menace de Vladimir Poutine. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Je voudrais vous rappeler que notre pays possède également diverses armes de destruction par composants, qu'elles sont plus modernes que celles des pays de l'OTAN, et que lorsque l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition.
Vladimir Poutine qui agitait, sans la nommer hier, la menace nucléaire. Poutine qui va fêter ses 70 ans le 7 octobre prochain et qui semble plus isolé que jamais sur la scène internationale comme dans son propre pays. Pour faire face à la contre-offensive en Ukraine, le président russe a annoncé la mobilisation de 300 000 réservistes. Comment en est-il arrivé là? Pour en parler, nous sommes avec Bernard Lecomte, journaliste, historien, spécialiste de la Russie, auteur de KGB, la véritable histoire des services secrets soviétiques chez Perrin. Bonjour.
Bonjour.
On a posé la situation en quelques mots. Est-ce que Vladimir Poutine peut encore sortir gagnant de cette guerre face à l'Ukraine?
La réponse est non. Il ne peut pas sortir gagnant de cette affaire. Il a d'ailleurs perdu la guerre dès le 3e jour de cette fameuse offensive en février. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il est lâché de partout. Il est lâché sur le plan diplomatique. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Chinois et les Indiens lui font comprendre qu'ils ne sont plus derrière lui. Il l'a perdu sur le plan militaire. On le voit bien dans le Donbass et dans la contre-offensive ukrainienne. Et là, il est coincé, il est sous la pression de son armée, des séparatistes du Donbass, c'est très important, parce qu'actuellement, c'est eux qui tirent la sonnette d'alarme, parce que pour eux, c'est vital, évidemment. Mettez-vous à la place des chefs séparatistes de Donetsk ou de Lugansk, ils voient que leur temps est venu, là. Si les Ukrainiens continuent d'avancer, ceux-là, ils sont morts. Donc, c'est cette pression-là à laquelle Poutine est en train de céder avant, probablement, tôt ou tard, de se faire gentiment débarquer.
Pensez-vous qu'il faudrait lui proposer une porte de sortie honorable? Et là, c'est plus une question de psychologie que je pose.
Je ne sais pas. Je ne suis pas diplomate. Je ne sais pas. Faut-il lui proposer une porte, mais laquelle ? Actuellement, il est de plus en plus seul dans son bureau. Il a son entourage autour de lui. Vous venez de dire qu'il va fêter ses 70 ans. Autour de lui, il y a une demi-douzaine de types qui ont aussi 70 ans, qui sont aussi originaires du KGB de Leningrad. C'est sa garde rapprochée. Mais cette garde rapprochée, elle est de plus en plus isolée.
Et coupée de la population ?
Pardon ?
Excusez-moi. Et coupée de la population aussi ?
Bien entendu, la population n'a absolument aucun rôle là-dedans. Sauf que, pourquoi n'a-t-il pas décrété plus tôt la mobilisation générale ? Ben, on le sait aujourd'hui, parce que tout simplement, la mobilisation, qu'elle soit d'ailleurs générale ou partielle, le résultat est à peu près le même. Poutine sait très bien depuis longtemps que cette mobilisation va mettre dans la rue des millions de jeunes. Parce qu'il faut pas s'imaginer que les jeunes russes sont différents des nôtres. Les jeunes russes, ils veulent pas aller se faire tuer à la guerre, ils veulent pas aller au service militaire, ils veulent pas revenir avec une jambe en moins et un bras en moins.
Monsieur le comte, vous avez dit qu'il serait débarqué, mais quand et comment ?
Alors moi, je ne sais pas. Vous savez bien, Eric, que la chose la plus difficile à prévoir dans notre métier, c'est l'avenir. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il va être débarqué tôt ou tard.
Oui,
est-ce
mais
que c'est demain ? Est-ce
le scénario,
que c'est dans 6 mois ?
Vous l'imaginez ?
On ne sait pas.
Le scénario, vous l'imaginez comment ? Quel scénario ?
Comme d'habitude, c'est-à-dire comme pour Khrouchtchev en 64, comme pour Gorbatchev en 91. À un moment, Poutine est dans sa villa de Sochi et le FSB le débarque, le débranche en quelque sorte. Mmh. Et on apprend que pour raison de santé, il a dû laisser son fauteuil
vous
à M. Patrouchev ou
vous
un de ses proches.
Vous pensez que ça c'est possible, qu'il n'a pas mis en place les contre-feux à ce type d'opération ?
Ben, les contre-feux, c'est justement ceux qui vont le débarquer. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passait comme ça en URSS, ça se passe aujourd'hui en Russie. Bon. Le FSB est petit à petit gangréné par les ultranationalistes qui pensent eux aussi... Bon. Je parle surtout de la deuxième génération du FSB, pas les quelques-uns qui, à 70 ans, continuent de d'entourer Poutine.
Puisse-t-il, monsieur le comte, ne pas mettre ses menaces à exécution, évidemment, avant cela. Merci en tout cas, monsieur le comte. Et puis je saluerai Éric Brunet de votre part ce soir, qui sera là, effectivement, à l'antenne, avec juste après Julien Cellier. Mais c'était un plaisir, en tout cas, de vous écouter et d'entendre votre expertise. 12h51, on va parler de Laura Smet.
Grande actrice qui fait ses débuts au théâtre.
Et vous avez reconnu Monique Younes.
Avec effectivement une maman et un père célèbre. 12h51, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro,
RTL Midi jusqu'à 13h.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Et tous les jours, la culture se met donc à table dans RTL Midi. Aujourd'hui, on parle théâtre avec vous, Monique Younes.
Rebonjour. Rebonjour, Monique. Mmh. C'est le début de la saison de théâtre et les têtes d'affiche arrivent. Ce soir, Laura Smet sera aux côtés de Jean-Pierre Darroussin dans la pièce de l'auteur britannique Simon Stephen, Le principe d'incertitude. Vous avez assisté aux répétitions pour RTL. C'est la première fois que la fille de parents célèbres, parce qu'elle le disait tout à l'heure, évidemment Johnny Hallyday et Nathalie Baye. C'est la première fois donc que Laura Smet monte sur les planches. Franchement, comment vous l'avez trouvée ?
Vous savez, comme une actrice novice qui en impose par sa présence, par sa beauté et par son caractère. Et il en faut face à Jean-Pierre Darroussin, qui est un acteur d'une finesse absolue. Darroussin interprète le rôle d'Alex, un vieux célibataire solitaire qui se fait arnaquer par Georgie, donc alias Laura Smet. Le personnage de Georgie ressemble un peu à celui de Laura. Elle est sans filtre, volubile. Georgie est grossière parfois, menteuse souvent, écorchée vive tout le temps. Et face aux difficultés de la vie, elle s'accroche à ce qu'elle a de plus fragile en elle, comme Laura Smet.
J'aime pas trop le tienne, moi, ça m'ennuie un peu. J'aime bien quand c'est chaud, froid. Georgie, ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle s'en fout et qu'elle dit les choses qu'elle ressent vraiment. Et elle est trop pure pour ce monde-là. Elle a tellement peur de pas être aimée qu'elle parle tout le temps. Et moi, je peux me reconnaître là-dedans. Moi, à 20 ans, j'ai été quelqu'un, soit je parlais pas du tout, soit je parlais tout le temps, ou j'en rajoutais un peu. Mais c'est souvent une peur qu'on a, que ce soit pas assez pour plaire à quelqu'un. Et j'arrive pas à être normale. Quand je suis heureuse, je suis trop heureuse. Et quand je suis trop triste. Je suis pas bipolaire, hein, mais j'ai un truc de trop... Mon mari dit ça très bien de moi. Ma femme a un taille gap un peu trop grand. Il y a toujours un truc.
J'arrive pas à être normal. C'est étonnant, cette phrase. On voit Laura Smet depuis 20 ans au cinéma. Comme vous l'avez dit ce soir, elle monte pour la première fois sur les planches. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'acteurs de cinéma qui font du théâtre, je me trompe?
Mais oui, et puis c'est une excellente chose pour les spectateurs, surtout. Il est vrai qu'en ces temps très difficiles pour le cinéma, le théâtre est un havre, un refuge vivant. Mais c'est toujours le même art, les mêmes émotions qui sont recherchées. Et Laura Smet a toujours considéré que jouer la comédie était une manière de retourner en enfance. Et ça tombe bien avec cette pièce qui est une sorte de conte de fées à l'envers, où c'est la fille qui réveille le prince endormi. Laura Smet découvre, un peu surprise, qu'au théâtre, on se prend moins au sérieux, mm-hmm. le travail est à la fois plus sérieux, plus exigeant, plus ludique. Et son premier souvenir de théâtre remonte à 1993, elle avait 10 ans, et elle accompagnait sa mère, Nathalie Baye, au Théâtre National de Chaillot, où Nathalie Baye jouait les fausses confidences de Marivaux.
Et je me souviens, il y avait des robes, ça avec le tulle comme ça, et je m'étais endormie un jour sur le décor et personne ne me trouvait, donc c'était la panique et le rideau allait se lever. Il y a un mec qui m'a délogé en 2 secondes et demie parce que ma mère devait se mettre sur la méridienne. Je sentais ma mère extrêmement heureuse au théâtre. Je me souviens des éclats de rire tout le temps. D'ailleurs, elle préfère le théâtre au cinéma quand tu lui poses la question. Et mon père, c'est plus la scène. Lui, c'est plus la concentration qui m'a frappée. Quand j'ai des fois des moments de trac, je pensais à lui parce que je me rappelle ce qui me touchait énormément, ce qui me fascinait un peu, pour être honnête, c'est que je le regardais. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Parce qu'on entendait tous les mondes hurler, Johnny. Et lui, il parlait pas, il se regardait dans la glace. Il y avait rien, mais rien qui passait dans ses yeux. Juste, il se regardait comme ça. Et j'ai juste capté des trucs d'énergie, en fait. Et après, il avait besoin de parler à tout le monde et déloger son stress, mais pour pas penser à ce qu'il allait faire. Moi, je serais incapable de rentrer en hélicoptère au Stade de France. Hein. Ça, c'est no way. Mais il m'accompagne maintenant. Il m'accompagne, il me donne beaucoup de force.
Elle est touchante.
Elle parle bien, ouais. Précise.
Avec des souvenirs très très précis. Vous savez, ce projet de la pièce, le principe d'incertitude, c'est une idée de Luido de Linxin, le metteur en scène de la pièce, qui a tout d'abord choisi Jean-Pierre Darroussin pour jouer Alex. Et quand il lui a parlé de Laura Smet pour partenaire, Darroussin lui a dit « Ah, c'est un sacré animal ».
C'est une débutante très douée quand même. Les codes, elle les a. Elle est quand même habituée à être dans la représentation de ses émotions. Que ce soit quand on a une certaine pratique de l'art dramatique, ça vient assez vite.
Je vais vous dire la réalité, au mois de juin, j'ai vraiment flippé. Et j'ai failli ne pas le faire parce que j'ai été envahie par un truc qui était trop grand pour moi. Et Jean-Pierre m'a dit un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment parlé. Qui m'a dit, tu sais, dans le personnage d'Alex, il donne 15 000 livres. Et ben nous, tous les soirs, on va donner 15 000 livres au public. Et c'est pour ça qu'on fait notre boulot. Donc ça m'a vraiment parlé. Et il y a un autre truc, parce que je pense qu'il m'a capté. Il m'a dit, Laura, il faut juste un tout petit peu de courage. Alors moi, quand on pique à l'orgueil, je dis même, j'en ai du courage. Et voilà, et en fait, oui, c'est sûr qu'il faut en avoir un tout petit peu, rien à faire de ce que les gens peuvent penser ou pas. Et quand t'es vraiment dans l'histoire et que t'es vraiment dans le jeu, eh ben le flip, il part.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avant la première?
Que ça marche. Hein. Que je me plante pas, que je tombe pas, que je sais pas, qu'il se passe pas un truc horrible. Et non, que du bonheur.
Et la première, c'est ce soir au Théâtre du Montparnasse. Merci beaucoup, Monique Younès.
Merci, Monique. C'était formidable d'écouter Laura Smet. Dans un instant, c'est vous qui prenez la parole.
RTL Midi.